CFM Rhodes, le MAC, première invitée autour de la Journée internationale des droits des femmes. Hier, Nadia Guiraudy de l'Union départementale CGT 12 avec des revendications, les conditions de travail et les inégalités salariales.
C'est un thème transversal à toutes nos revendications, que ce soit le SMIC à 1800 euros ou la semaine des 32 heures. Tout rejoint le droit des femmes là-dedans et des plus précaires de toute manière. Alors ça a été reconnu, je pense, par l'opinion publique, mais pas forcément par nos dirigeants. Cette crise sanitaire a mis en lumière toutes les aides à domicile, les aides soignantes, les soignants d'une manière générale, les travailleurs sociaux et médico-sociaux, les facteurs, qui sont beaucoup des factrices aussi. J'en oublie les personnes des supermarchés, les caissières et tout. On a vu beaucoup de femmes effectivement continuer de travailler pendant que beaucoup étaient confinées à leur maison. Donc elles ont assuré, malgré le risque du virus, leur service à quelque niveau que ce soit, sans oublier les femmes de ménage.
Vous représentez les travailleurs sociaux, hein, si j'ai bien...
Non, alors non. Je représente l'Union départementale de la CGT, parce que je suis membre de la CE de l'UD, mais je suis également assistante sociale au conseil départemental et donc de la CGT du conseil départemental.
Donc les assistantes sociales, notamment, elles ont été très, très mises en avant dans la période-là. C'est quoi votre état d'esprit général ?
Un manque de reconnaissance de nos diplômes, de toute façon, mes travailleurs sociaux, médico-sociaux, parce qu'on travaille aussi avec des infirmières puéricultrices au conseil départemental, avec des administratives, des secrétaires qui font le premier accueil, qui subissent de plein fouet, mais tout le travail social, oui, ils subissent de plein fouet quand même la précarité qui va grandissante dans nos sociétés et qui génère de l'agressivité notamment et des problèmes psychiatriques. Quand on a parlé de la troisième vague psychiatrique en France, effectivement, nous, les travailleurs sociaux, on reçoit essentiellement des gens qui ne sont pas reçus par les soins psychiatriques, qui refusent ces soins, qui refusent de reconnaître leurs problèmes psychiatriques, oui, ou de dépressifs. Et donc, on fait un peu... moi, quand j'ai fait ma formation, on m'a dit que j'étais la soupape de sécurité de la société. Oui. Ça veut tout dire. Mais la soupape de sécurité, elle est en train de péter, quoi. Si vous coincez le tutut de votre cocotte minute, la cocotte minute, elle pète. Voilà. Et on n'a plus de moyens pour aider les gens, d'une manière générale. Là, on parle de la réforme du chômage. Et les chômeurs vont perdre en moyenne 300 euros de droits par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, derrière, les professionnels qui s'occupent des personnes, ils sont face à la non-compréhension du public, et c'est normal.
Dans vos métiers, ils sont très féminins. Alors, j'espère que ce n'est pas une caricature de ma part. Non,
non, ils sont vraiment très féminins. Et d'ailleurs, les grilles dans la fonction publique de tous ces travaux féminins, de tous ces travaux féminins, ont une incidence aussi sur les hommes qui exercent ces métiers parce qu'ils sont payés moins aussi qu'à diplôme égal. Hein, à diplôme égal, on est 25% moins bien payés que les hommes. Hein, donc, sur un bac plus 3, voilà, moi, je suis bac plus 3. On a été reconnu Bac plus 3 il y a 2 ans et on a gagné 12 euros sur le salaire mensuel. Voilà. Voilà la réalité du travail des femmes actuellement et la reconnaissance qu'on a de nos métiers.
Et des problèmes de reconnaissance tout court, hein, des femmes dans l'espace public. Les noms des rues et de places, par exemple à Rhodes, il y en a 225 et très peu qui portent le nom de femmes. Jacqueline Santini du planning familial de Rhodes.
Il n'y a que 8 noms de femmes sur Rhodes. C'est bien le signe qu'on ne reconnaît pas parce qu'il y a eu des femmes actives, il y a eu des femmes qui ont fait des choses. Et en général, c'est des bienfaitrices qui ont été reconnues. Hein. Donc, c'est pas des scientifiques, c'est pas des... Voilà. Même la rue Marie, dont tout le monde pense que c'est un nom de femme, c'est un abbé.
Donc vous, personnellement, vous seriez pour qu'on débaptise un certain nombre de rues ?
Oui.
Qu'on n'attende pas d'en faire des nouvelles, qu'on en rébaptise et qu'on donne,
oui,
des noms de femmes.
Parce que des nouvelles rues, il n'y en a pas des masses. Bon, il y en a un peu sous Bourran là-bas, c'est tout. Mais qu'on débaptise certains noms de rues et qu'on les rebaptise. Peut-être que symboliquement, on fera cette action une fois. Donc c'est une idée qui nous trotte dans la tête. Il faut qu'on la mette en place et qu'on voit aussi la législation, quoi. Pas être. Bon, après, on a fait des choses illégales dans le temps, on peut continuer. Et ça a fait avancer les choses, des fois. De faire.
S'il y avait qu'un nom de femme que vous aimeriez voir sur une rue, une place de la ville de Rhodes, ce serait lequel ?
Ben, moi, je dis Simone Veil, parce qu'elle a fait énormément pour les femmes. Puis c'est assez consensuel, quoi, en fait. Parce que c'était une femme de droite qui le reconnaissait, mais qui a fait énormément pour les femmes. Quoi. Qu'on arrête de nous dire, vous êtes de gauche et vous êtes pour les femmes. Non, il y a aussi des gens de droite qui sont pour l'évolution des droits de la femme, quoi, en fait. Donc Simone Veil, c'est assez consensuel.
Et une Aveyronnaise ?
Une Aveyronnaise, ben, il y a... Citoyenne Sorgue, ils l'ont donné à une toute petite rue à Ramadier, donc c'est bon, c'est pris. Et après, là, j'en vois pas. Il y a sans doute des sportives, mais pas très sportives. Il y a sans doute des sportives à honorer.
D'accord.
C'est donc... Il y a un gymnaste qui a été dénommé Ginette Mazel. Ouais, voilà. Donc je sais qu'il y a celui-là. Je n'ai pas compté les gymnases.
Sinon, planning familial en Aveyron, c'est quoi vos sujets en ce moment ?
Il y a toutes des séances d'éducation pour les élèves de seconde qui s'appellent Génération Égalité, qui sont organisées par le Conseil Régional. On intervient pour tous les élèves de seconde avec le CIDFF et la Mutuelle des étudiants. On se répartit les établissements. Donc il y a ça qui est un gros boulot. Il y a tout le travail d'écoute, d'accueil et d'information, soit des femmes, soit des hommes, soit des jeunes. Voilà. On a une permanence tous les mercredis après-midi à Rodez, tout le mercredi, toute la journée à Millau. Et à Sainte-Afrique, je crois que c'est le mercredi aussi. Donc il y a des permanences ouvertes et il y a des entrevues, des entretiens sur rendez-vous. D'accord. Il y a les deux possibilités de contacter le planning. Après, il y a aide dans tout ce qui est éducation à la sexualité, contraception, bien-être physique et moral des gens. Voilà. On a des conseillères familiales qui reçoivent les gens qui ont besoin d'aide. Quoi.
Et les entretiens ?
Il y a les violences aussi. Et il y a le numéro vert aussi. Alors c'est un numéro vert ouvert, gratuit, ouvert à tout le monde, qui est un numéro de conseil et de... Et c'est le planning familial qui le tient. Voilà.
Les entretiens et ce pourquoi on vient vers le planning familial, on la verra notamment, c'est ouais. Quoi les sujets les plus courants ?
Le premier sujet qui apparaît, c'est la contraception. Et après, on se rend compte que sous prétexte de contraception, on arrive aux violences. Mais ils appellent pas pour les violences. C'est dans le courant de la discussion que ressort l'idée de violence. Donc, on peut presque le placer en premier, les violences faites aux femmes. Alors, il y a la contraception, il y a les IVG, mais là, bon, à Rodez, il y a le centre de planification qui est efficace. Par contre, sur le reste du département, c'est un peu la catastrophe, qu'on n'a rien dans l'ouest, on n'a rien dans le nord de Casville, dans le bassin, il n'y a rien. Dans le sud, il y a un groupe qui s'est monté, qui est un groupe du planning qui est assez actif. Donc, les femmes ont des difficultés pour tout ce qui est IVG. Il faut aller à Montpellier, il faut, sans compter les cas de culpabilisation, vous vous rendez compte de ce que vous faites. Il y a certains médecins qui n'ont pas un rôle de conseil, qui ont un rôle de morale. Morale qu'on peut discuter.
Bien sûr.
Voilà. Donc, nous, on est pour la liberté, on n'est pas pour l'avortement. S'il y a des gens qui ont besoin d'avorter ou envie, ben, qu'ils puissent le faire. Quoi. On n'oblige personne à avorter. C'est plus un rôle de faire prendre conscience aux gens de ce qu'ils veulent. Quoi, en fait.
Tous les contacts, adresses et numéro de téléphone du planning familial de Rodez à retrouver sur le site web www.planning-familial.org. CFM Le Mag, suite de notre émission sur la journée d'hier, journée internationale des droits des femmes. L'école, c'est un sujet. Et pour en parler, Julie Bernat-Sandranier de la FSU de l'Aveyron.
On est une profession fortement féminisée, hein, plus de 80% de femmes dans l'enseignement. Ben, un jeune enfant, maintenant, de plus en plus côtoie, rencontre dans sa vie de la crèche, on va dire presque jusqu'à l'université, beaucoup de femmes. Alors moi, dans l'enseignement, ce que j'aurais envie de dire, c'est que lors de la période Covid qu'on a vécue l'année dernière, les enseignantes ont été les premières de corvée aussi pour maintenir ce lien, puisqu'on est fonctionnaire, on maintient ce lien, ce contact avec les familles par rapport aux liens scolaires que nous avions besoin de fournir. Voilà. On a été volontaires pour pouvoir accueillir les enfants des soignants en période de confinement. Et il a fallu aussi gérer, concilier cette vie professionnelle et cette vie aussi familiale. Et on est une profession, donc certes, beaucoup féminisée. Là, depuis avec la loi de transformation publique, on va être très, très attentif sur notamment un aspect l'aspect égalité salariale, parce que là on le voit dans nos carrières, on est une profession qui prend énormément de temps, contrairement, on va dire, aux représentations qui nous feraient croire que on est un métier qui s'arrête à 16h30. C'est hélas pas le cas, hein. Les enquêtes que nous menons confirment que un travail d'enseignant, c'est 40 heures par semaine, et que parallèlement à ça, c'est un boulot prenant qu'on aime, mais il faut savoir aussi concilier ses vies familiales et professionnelles. On a de plus en plus de collègues qui se retrouvent des fois à assumer seuls leurs enfants, ce sont des situations aussi précaires, il faut quand même, je tenais à le dire, que nous avons aussi de plus en plus de contractualisation, et c'est malheureusement les conséquences de la loi de transformation publique. Nous sommes dans un métier qui va de plus en plus accueillir des contractuels, et pour nous c'est un problème. On demande, c'est sûr, une meilleure répartition des richesses, des revalorisations salariales, et on se battra pour que cette égalité, notamment dans le domaine de la carrière, parce que les écarts de salaire entre une carrière femme et une carrière homme dans notre secteur, dans notre corps de métier, révèlent des écarts qui peuvent atteindre 30%.
Mais comment c'est possible, des écarts de salaire entre instituteurs dans la fonction publique?
Parce qu'il y a des questions d'arrêt dans sa carrière. C'est une femme qui décide de travailler des fois à temps partiel pour pouvoir élever ses enfants, ce que font moins les hommes. C'est aussi les enseignantes ne prennent moins des métiers, on va dire, avec des missions particulières, des fois des directions, des fois des postes de conseiller pédagogique, donc des postes qui sont mieux rémunérés. Donc c'est souvent les hommes qui prennent ces fonctions-là et moins les femmes. Donc du coup, il y a des écarts de salaire. C'est souvent aussi en début de carrière que ces collègues, quand ont des enfants, prennent des travail à temps partiel. Donc du coup, il y a ce décalage-là. Et on reste vigilant pour qu'il y ait la réduction, notamment dans les avancements, se fasse, puisque on a quand même davantage, et on avait davantage de d'hommes qui atteignaient des fonctions de hors classe ou de changement de grade plus conséquent chez les hommes que chez les femmes. Voilà.
Dans votre enseignement, puisque vous êtes en primaire, est-ce qu'il y a dans le programme, même pour les petits, donc en école primaire, des choses qui correspondent à un peu la promotion de l'égalité homme-femme à tous égards, ou pas du tout?
Disons que voilà, il y a eu une polémique il y a quelques années, mais effectivement, on a encore, et on reste pour nous à la FSU, au SNUPP, très engagés et vigilants à une forme de liberté pédagogique, et qui nous permet effectivement de pouvoir aborder à travers des albums, à travers quand on est plus grand, des interventions sur cet aspect-là, parce que effectivement c'est important d'avoir des ateliers philo, par exemple, pour discuter de casser ces représentations. Je crois qu'encore récemment, un article ou une enquête est sortie mettant en avant que c'est quand même encore très peu de jeunes filles qui arrivent au cursus scientifique. Donc ça, il faut déconstruire en fait les représentations. C'est ce qui a été dit lors de l'enquête. C'est déconstruire, et c'est un travail effectivement qui commence à l'école. Donc nous, on va être vigilants, mais on manque quand même beaucoup de formation dans notre métier. Voilà. Et je pense qu'il y a peut-être certains collègues qui hésitent à aborder ce genre de choses, mais pour nous c'est essentiel pour justement arriver à cette égalité que l'on défend et que l'on porte.
Donc ça veut dire qu'actuellement il n'y a rien dans le programme en primaire, un moment dédié dans une année, ou des ateliers autour de ces sujets-là?
Et ce sont des projets plus effectivement de projets d'équipe, de projets d'école qui permettent de mettre en place ça. Après,
donc il y a des projets particuliers au sein d'école mais pas au niveau de l'éducation nationale dans les programmes où on vous envoie la fiche tous les ans de ce qu'il faut apprendre aux enfants.
Alors, c'est marrant que vous parliez de ça, parce qu'effectivement notre métier, alors c'est sûr qu'on a un programme qui cadre certaines choses à voir, on est bien d'accord, hein, on suit ces programmes-là. Après, attention, on n'est pas à avoir des fiches un peu toutes faites et toutes prêtes. Alors, c'est sûr que si, on peut trouver sur des sites ministériels des programmes, des sites, des liens sur le discours genré, sur des choses comme ça. Après, je pense que c'est à chaque enseignant de s'approprier cette cette matière ou ce discours, ces échanges-là. Après, c'est pas non plus une obligation. Voilà, c'est comme je vous dis, c'est aux enseignants de s'approprier cette notion. Et je pense que parce qu'on est un métier fortement féminisé, je pense que c'est important. Et comme je vous l'ai dit, je le rappelle, pour déconstruire, je pense, ces représentations un peu genrées, notamment à travers Noël. Je pense que, bon, de mémoire, des petits discours sur l'aspect bleu quand on rentre dans des rayons de supermarché pour aborder les jeux pour garçons et l'aspect rose pour les filles, ou pourquoi une fille s'habillerait-elle pas en bleu, en vert, en violet, voilà, et pourquoi un garçon ne se mettrait pas en jupe. Après, voilà, c'est des questions sur lesquelles c'est intéressant de discuter, d'échanger, sans forcément apporter une réponse, hein. c'est pas ce qu'on veut, mais c'est une réflexion, apprendre à se questionner sur tout ça, et ça c'est aussi, ça fait partie du rôle, voilà, de l'école.
D'accord, Julie, mais vous êtes un tout petit peu en rose aujourd'hui.
Alors, en rose, en rouge, oui. Rose et bleu, d'accord, rouge,
d'accord,
et bleu,
bon, d'accord,
rouge et bleu.
D'accord. Dernière question, dans votre enseignement au quotidien, les enfants, alors que ce soit dans la classe ou dans la cour de récréation, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Je ne vais pas dire qui vous choque, mais vous dites, bon, bah là, on a encore du boulot, quoi, nous, les femmes.
Oh, mais par exemple, alors je prends un exemple concret récent que j'ai vu. C'était un petit élève qui avait du vernis à ongles sur ses doigts et qui avait eu une réflexion de ses camarades. Mais pourquoi tu t'es mis du vernis sur les ongles? Donc, ça questionnait un autre camarade garçon. Voilà, donc c'est bien d'échanger là-dessus. Je pense que, voilà, déjà, de revenir pourquoi un garçon, effectivement, n'aurait pas le droit et l'envie de se mettre du vernis à ongles s'il en a envie. Mais pourquoi une petite fille a besoin d'avoir des cheveux longs systématiquement, voilà. Après, c'est compliqué, mais après, des fois, quand on discute avec les élèves, il y a des fois des discours qui reviennent de la maison. C'est-à-dire que, oui, mon papa, il n'aimerait pas que, ou ma maman ne veut pas que. Donc, c'est vrai que c'est un travail, en fait, de la société aussi. C'est à nous d'ouvrir un petit peu et d'interroger, de questionner. Alors, je ne dis pas qu'il faut donner les réponses, mais en tout cas, c'est bien de déconstruire un peu tout ça, voilà, j'insiste, mais je pense que c'est important, ces représentations qui finalement, sans le vouloir, voilà, moi, mes propres enfants n'ont pas été habitués à forcément être habillés, j'ai des jumeaux, hein, j'ai un garçon et fille, hein, voilà, et voilà, ma fille, à un moment donné, a porté un peu de rose sans que je ne, enfin, voulais être attirée par le rose, par exemple, et pourtant, je ne l'ai pas habituée à ça. Il faut discuter, hein, je pense que c'est du dialogue, hein, et l'école doit apporter ce genre de réponse, ou en tout cas de